Le Seigneur nous le dit, ne craignez pas. Mais il ajoute, craignez plutôt. Ce n'est pas très à la mode de se dire que le Seigneur nous invite à avoir un peu peur. Aujourd'hui, on ne peut plus trop prêcher de cette manière-là. Bon, c'est pas plus mal d'un certain point de vue. Toutefois, je pense que quand Jésus nous parle dans l'Évangile, il nous faut prendre très au sérieux cette interpellation, craignez plutôt. Ne craignez pas ce que vous craignez spontanément, mais craignez plutôt ce que vous relativisez spontanément. Alors quand je dis vous, je vous rassure, je me mets dedans. Et puis il nous dit aussi à la fin, eh bien, de la manière dont vous témoignez de moi, de Jésus, ça va dépendre la manière dont Jésus vous défendra au terme de votre vie. Si vous le reniez devant les hommes, il nous reniera devant son Père. Parole sévère qui nous fait craindre justement pour notre salut, on va dire, pour notre salut, pour notre manière de vivre en vrai chrétien. Et comme je l'ai dit souvent dans les homélies, il ne s'agit pas simplement pour notre vie sur terre chrétienne de désirer être sauvé, mais il s'agit d'être saint. Et donc, là, il est simplement question d'être sauvé, mais il faut aller bien plus loin pour être saint. Donc, ne nous trompons pas de combat, ne craignons pas des choses qui finalement, selon notre foi, aux yeux de Dieu et donc à nos yeux convertis, sont relatifs, presque sans importance en certains égards, mais craignons plutôt, comme dit Jésus, la géhenne que l'âme, craignons plutôt la géhenne et que l'âme, la géhenne et que l'âme périsse avec le corps. Ne craignons pas ce qui tue le corps, car nous savons que nos corps mourront, ou bien, sauf si le Seigneur revient avant la fin, avant que nous mourions, mais sinon nos corps mourront tous, sans exception. Par contre, l'âme, craignons ce qui peut faire périr l'âme et le corps. Alors ça peut être un peu surprenant cette affirmation, de voir que l'âme peut périr. Parce que nous le savons, c'est une partie de notre foi, de notre compréhension de l'humanité, l'âme survit. L'âme ne peut pas mourir. L'âme survit à notre mort. C'est pour cela que quand on fait une sépulture, eh bien, on sait qu'on prêche, on annonce que la personne est toujours vivante. L'âme s'est séparée du corps, mais la personne est toujours vivante et qu'elle se retrouve devant Dieu à... Voilà, dans la vérité devant Dieu, et puis là, il se joue des choses, sans doute les choses les plus importantes de notre vie, finalement, ce moment-là, le moment le plus important. Et il nous faut prier donc pour les défunts, pour les agonisants et les défunts, un aspect très important de notre prière. Pour expliciter un petit peu comment l'âme peut mourir, je vous permets de vous citer saint Augustin. Voilà ce qu'il dit sur cet évangile. Comment meurt-elle l'âme ? Ce n'est pas en cessant d'être un principe de vie, le vide du corps, mais en perdant elle-même ce qui est sa propre vie. Si l'âme est la vie d'une autre substance, donc le corps, elle a elle-même sa vie propre. La vie du corps, c'est l'âme. La vie de l'âme, c'est Dieu. De même que pour ne pas mourir, il faut au corps un principe de vie qui s'appelle l'âme, de même, il faut à l'âme sa vie, c'est-à-dire Dieu, pour qu'elle échappe à la mort. Quand le corps meurt-il ? Quand l'âme l'abandonne ? Oui, si l'âme vient à l'abandonner, le corps meurt. Et nous n'avons plus devant nous qu'un cadavre. L'âme morte, les âmes mortes, ce sont celles des impies, des pécheurs, des impies, des infidèles, des rebelles à la foi. Le corps vit, et l'âme est morte. L'âme est une si grande chose que toute morte qu'elle soit, elle est apte à donner la vie au corps. On se lamente sur un mort. Pleure plutôt sur le pécheur, sur l'impie, sur l'infidèle. Es-tu à ce point dépourvu de piété fraternelle que tu pleures sur un corps dont l'âme s'est éloignée et que tu ne pleures pas sur une âme dont Dieu s'est retiré? Craignons plutôt donc le fait que Dieu ne puisse pas vivre dans certaines âmes. Et même si nous sommes, nous, chrétiens, nous essayons de vivre avec Dieu, nous pouvons, par notre conduite, par nos comportements pécheurs, nous pouvons faire que Dieu ne puisse plus vivre dans notre âme et que notre âme soit morte. C'est ce qu'on appelle, en jargon théologique, le péché mortel. C'est-à-dire que ça nous met dans une attitude de une mort, la mort dont Jésus dit qu'il faut craindre. Donc nous devons prier pour les pécheurs, nous devons prier pour nous-mêmes. À la suite de Saint Dominique, mon saint patron, permettez que pour une fois je l'évoque, dans les 9 manières de prier, Saint Dominique passait des nuits entières à prier miséricorde pour les pécheurs, miséricorde. Il suppliait le Seigneur d'intervenir pour qu'il leur donne un surcroît de grâce et pour qu'ils se puissent se convertir. De même, nous devons prier dans ce sens. Dieu veut sauver tout homme, mais il ne souhaite pas le faire sans notre participation, parce que nous sommes son Église. Dieu n'agit pas par magie, il agit par la médiation mystérieuse de son Église. C'est pour cela que nous sommes ici ce matin, c'est pour cela que nous allons vivre l'Eucharistie. C'est pour ça que nous recevons les sacrements, c'est pour ça que nous prions ensemble. Demandons la miséricorde pour le pécheur, demandons au Seigneur que notre âme ne soit pas morte, et demandons aussi le salut pour les âmes qui nous entourent, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne l'accueillent pas, ou qui sont dans cette situation de péché très grave. Ça ne doit pas être pour nous l'occasion de jugement. C'est pas la même chose. Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Et encore une fois, nous sommes le corps du Christ comme Église, et nous devons avoir les comportements de Jésus. Donc nous ne sommes pas venus pour juger nos frères, mais pour les sauver. Aussi, il nous faut prier pour eux comme Jésus à l'agonie, juste avant de mourir, sur la croix. Il nous faut aussi offrir notre vie pour le salut des âmes avec Jésus, en union avec l'Eucharistie, dans le mouvement eucharistique. Nous devons prendre notre responsabilité, et c'est en ce sens que la finale de l'Évangile, où Jésus nous dit de la manière dont vous annoncerez pour moi devant les hommes, moi je m'annoncerai pour vous devant mon Père, est une interpellation d'autant plus forte et en fait qui exprime une certaine inquiétude de Jésus, qui exprime une certaine inquiétude. Il dit, si jamais mes disciples ne se prononcent pas pour moi devant les hommes leurs contemporains, comment je vais sauver tous ceux pour lesquels je donne ma vie? Nous avons une grande mission. Alors c'est vrai que ça, c'est la radicalité de l'Évangile que je vous dis. C'est vrai que ça nous interpelle, savoir comment, quelle manière s'y prendre. Alors la manière, il y en a de multiples, sur la paroisse, on essaie d'en mettre en place, d'en proposer. Il y a le parcours ciné qui a été proposé, qui a ce but-là, sauver le monde entier. Pas par nos propres mérites, mais par la grâce de Dieu qui agit dans le corps, son corps qui est l'Église et qui s'incarne dans une paroisse. Mais aussi, évidemment, dans plein de choses, et je vais terminer par 2 choses. Convertissez-vous, convertissons-nous et soyons sans crainte. Jésus dit, soyez sans crainte, parce que dans l'Évangile, vous l'aurez remarqué, je n'ai pas insisté jusqu'à présent là-dessus, le Seigneur nous dit qu'il s'occupe de tout. Soyez sans crainte. Le Seigneur s'occupe de tout. Il est à nos côtés. Il nous veille sur nous. Il s'occupe de tous les moindres aspects de notre vie. Donc, convertissons-nous, faisons en sorte que Dieu soit vraiment l'âme de notre âme, le principe de vie de notre âme, et que notre âme soit vivante de Dieu, et donc notre corps lui-même rayonne de sa présence divine, et déclarons-nous pour Jésus devant les hommes. Et le deuxième aspect, alors convertissons-vous et soyez sans crainte, parce que la conversion, l'être sans crainte, fait partie de la conversion. Je ne suis sans crainte vis-à-vis de Dieu, parce que ma vie est toute offerte à Dieu, et je suis à son service, son disciple, son disciple, son pauvre, mais vrai disciple. Deuxième aspect, nous avons reçu un sacrement. Vivons des sacrements. Nous avons reçu un sacrement qui nous donne toutes les grâces nécessaires pour vivre ce combat spirituel que Jésus nous donne. C'est le sacrement de la confirmation. Ceux qui n'ont pas vécu ce sacrement, je vous invite instamment à le vivre, à le recevoir. Ce n'est pas un sacrement facultatif malgré les apparences. Parce qu'on vit très bien sans ce sacrement. Quand on est baptisé, on peut même communier, ce qui est une aberration en théorie. Quelqu'un qui n'est pas confirmé ne devrait pas pouvoir aller jusqu'à la communion, en théorie. Dans la pratique, c'est l'Église qui guide, et l'Église, dans sa miséricorde, autorise à ce qu'on fasse la communion avant la confirmation. Mais la confirmation nous est nécessaire. Elle nous donne des grâces spécifiques pour le combat spirituel, pour annoncer Jésus-Christ, pour vivre vraiment notre baptême comme des chrétiens adultes, responsables, vis-à-vis de notre propre vie et vis-à-vis du monde. Nous avons besoin de ce sacrement. Puis bien sûr, en étant nourris aussi au quotidien de l'Eucharistie, quand je dis au quotidien, ça peut être hebdomadaire évidemment, de l'Eucharistie, du sacrement de réconciliation aussi, qui est la miséricorde de Dieu, dont le Seigneur nous partage en permanence. Voilà, que le Seigneur donc nous aide à entrer dans ce beau combat spirituel qui est ce combat chrétien, qui est exigeant, qui est radical. De fait, Jésus ne nous dit pas « croyez en moi et ensuite faites ce que vous voulez ». Il nous dit « si vous croyez en moi, allez jusqu'au bout, vivez comme moi, sauvez le monde avec Jésus. » Amen.